Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans quelques instants avec un aventurier globe-trotteur gourmand. Et oui, tout ça pour Stéphane Rothenberg, il sera avec nous. Demain, c'est la finale de Pékin Express sur M6, on va en parler avec lui. Et puis peut-être qu'il nous donnera des petites infos sur le tournage de Top Chef qui va bientôt commencer. Vos téléphones portables vous espionnent-ils? C'est le sujet que nous traiterons à 10h30. Restez avec nous, 0826-300-300. Dites-nous ce que vous avez regardé hier à la télé. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, 10h-11h, Média, nouvelles technologies. Et on va recevoir, on reçoit, il est dans le studio avec nous, Stéphane Rothenberg. Bonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour
d'être avec
monde.
Nous. Je vous ai présenté comme globe-trotter, aventurier, gourmand.
Je prenais,
c'est un peu tout
oui,
ça.
Oui, bon, c'est hein pas mal.
On va parler de Pékin Express. On dira peut-être quelques mots sur la nouvelle saison de Top Chef qui va ouais démarrer. Enfin, c'est le tournage qui
le
va
tournage,
démarrer.
Le tournage, oui, en diffusion, les gens ont le temps.
Diffusion,
c'est pour 2020.
Ce sera, mais là, bon, Pékin Express, c'est l'actualité. C'est ouais votre actualité, la finale. Demain soir sur M6, Pékin itinéraire bis, ce sera à 23h30.
Je suis pour les sœurs.
Pardon, vous pour êtes pour les jumelles. Ah, okay. Oui, oui, on va en parler dans un instant.
Jumelles,
qu'avez-vous regardé à la télé? Vous avez regardé quoi à la télé, vous, hier?
Hier, j'ai bossé, figurez-vous.
Ah,
enfin, en fait, si vous voulez, c'est assez simple. Si vous demandez ce que j'ai fait, c'est j'ai bossé.
Moi, je sais ce qu'il faisait. Et aussi, s'il recevait les gens du Parisien, et il a répondu aux questions.
Ah, mais c'est incroyable. En fait, on a reçu. C'est super, d'ailleurs, parce que moi, j'aime bien ça. On a reçu les lecteurs du Parisien, on leur a montré la finale en avant-première, sauf la fin. Pour pas qu'ils nous spoilent. Ouais. Voilà, mais voilà.
Ah, d'accord, donc vous n'avez pas regardé la télé. Mais hier soir, à la télévision, sur TF1, il y avait SWAT, et SWAT est arrivé en tête des audiences. 4 092 000 téléspectateurs, 19,4% de part de marché. Deuxième position, c'est France 3.
Chez Maramour.
Oui, on l'avait rencontré au Festival des télés, très sympathique. Deuxième position, France 3, avec 3 276 000 téléspectateurs pour la série française Crime dans le Luberon. Et Rémi Pernelet qui me prépare ses audiences me signale qu'en troisième position c'était France 2 avec Nos Terres Inconnues dans le Queyras avec Cécile Bois et Raphaël Langlais. Je sais pas, vous avez pas regardé, mais c'est en très
bon
forte
comédien
baisse par rapport au premier numéro en décembre dernier. 4 400 000 téléspectateurs dans les Cévennes, c'était avec Malik Bentala qui était un très bon client. Là ça fait presque la moitié, et puis M6 qui est arrivé dernière hier avec
quatrième, il y a 32 chaînes.
Dernière position des chaînes généralistes. Précision, pour M6, 1 984 000 téléspectateurs, 10% pour recherche appartement maison. On a Claudine en ligne avec nous. Bonjour Claudine.
Bonjour.
Vous avez regardé quoi vous hier?
Alors moi j'ai regardé M6 avec Maison à vendre, avec Stéphane Sapi.
D'accord. Et vous êtes une fidèle du programme?
Oh oui, j'aime bien.
Alors qu'est-ce qui vous plaît? C'est quoi? C'est de voir les maisons? Ça vous fait rêver? Ça vous...
Alors, j'aime bien déjà Stéphane Plaza. Ouais. J'aime bien la présentation qu'il fait. Donc après, ça reste un peu rigolo. Et puis bon, ça vous donne des idées concernant l'achat des biens immobiliers.
D'accord.
Parce que moi, j'ai déjà investi, donc... voilà.
Et vous auriez pu faire appel à lui un jour si vous aviez eu besoin?
J'y ai pensé.
C'est vrai.
C'est mon appartement, tout à fait.
Bah oui, il est doué, hein, il est pas mal.
Ouais,
merci.
C'est le genre d'émission, vous regardez le début, vous êtes obligé d'attendre pour regarder la fin. On peut se faire facilement piéger.
Josette est en ligne avec nous, vous nous appelez de Paris, Josette. Vous avez regardé
Crime dans le Luberon.
Ah, d'accord. Ça vous a plu?
Disons que c'est une série qui est un petit peu sans surprise parce qu'on connaît bien le personnage principal.
Ouais.
Mais bon, c'était plaisant. L'histoire m'a semblé un petit peu embrouillée. Je trouve la fin un peu surprenante. Mais ce qui m'a manqué surtout hier, puisque c'est quand même un divertissement très agréable à regarder, ce qui m'a manqué peut-être hier, c'est peut-être j'aurais aimé avoir un peu plus d'images sur la région.
Sur la région, parce que C'est vrai que c'est souvent l'occasion dans ces fictions de montrer un petit peu le paysage. Il n'y en avait pas assez pour vous. Bah, faudra regarder Pékin Express. Vous aurez des paysages. Ce ne sera pas le Luberon, mais il y aura des paysages. Quel téléspectateur ? Merci beaucoup. Merci, Josette, de nous avoir appelé. Quel téléspectateur vous êtes ? Qu'est-ce que vous regardez ? Est-ce qu'il y a une émission que vous ne ratez jamais ?
Alors, aujourd'hui, je ne peux plus ne plus rater parce que c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est vrai que j'étais boulimique, moi, un petit peu comme Gilles. Moi, j'ai été élevé par la télé. J'ai adoré. Non, mais j'adore la télé. Ouais. C'est vrai que vous savez, lorsque Stéphane Courby et Arthur ont inventé l'émission qui s'appelait Les Enfants de la télé, je me suis complètement reconnu. Ouais. C'est que moi, ça a vraiment structuré mon divertissement, mais une forme de culture générale, parce qu'on apprend plein de choses. Donc, il n'y a pas beaucoup de genres que j'aime pas. J'irai finalement, alors que je sais que les gens aiment bien, les documentaires animaliers m'ennuient assez facilement.
Ouais.
Alors que ça peut être
bien,
intéressant.
Oui, en général, voilà, pour faire bien, quand on dit qu'est-ce que vous regardez, on
ne
répond pas aux documentaires.
Moi, ça m'ennuie. En revanche, j'ai appris plein de choses avec les documents historiques, etc. Non, je suis. Alors, vous savez, voilà, quand vous avez le câble et tout ça, donc il y a 200 chaînes, c'est fascinant. Si vous mettez dedans,
vous pouvez passer votre journée.
Et c'est extraordinaire. Ouais. Et je continue à être gourmand de ça.
Ouais. Mais alors, par exemple, qu'est-ce qui vous plaît ? Vous allumez votre télé, vous dites, je vais regarder quoi ?
Je ne sais pas. Enfin, vraiment, ça part comme ça. Je n'ai pas, c'est pas bien, je n'ai pas de truc de programme télé. J'y vais. Alors après, moi, ça, c'est pas très drôle, mais moi, j'ai mes grands prix de Formule 1, c'est la seule religion.
Voilà.
Là, dimanche, il y en a un. Voilà, ouais.
Donc là, ça, c'est
je fais une infidélité à MC, je regarde Canal, mais c'est comme ça. Voilà, c'est le grand prix. En dehors de ça, vraiment, je débarque, j'ai mes 300 chaînes et c'est parti. Et ça peut être assez frénétique. En revanche, une fois que je suis dedans, je ne suis pas zappé pour une raison ou pour une autre. Et en revanche, ce que je ne comprends pas, parce que je vois les jeunes autour de moi, c'est que moi, je ne suis pas distrait. Je ne vais pas aller regarder mon téléphone portable tweeter, à zapper, à je sais pas quoi, ou regarder autre chose. Je regarde mon programme. Je ne vais pas lire, etc. Je suis assez focus. Ouais. Et je suis fasciné par les gens qui font autre chose en regardant la télé. Le soir, on peut la voir en décor la journée, ça c'est normal. Elle est faite pour ça. Mais le soir, je la regarde.
Vous êtes devant la télé. Et qui est-ce qui tient la télécommande chez vous ?
Ah non, c'est moi. C'est dictature personnelle. c'est comme ça.
C'est vous qui tenez. Vous la regardez dans la chambre parfois ou pas ? Chambre
oui,
ou salon
oui, oui, oui. Non, alors je suis partie de ces gens attaqués mentalement qui ont des télévisions à peu près dans toutes les pièces, sauf la cuisine.
Sauf la cuisine.
Je ne regarde pas la télévision en mangeant.
Ah bon ? Mais en tout cas, il y a beaucoup de télé, chez vous.
J'ai été éduqué, c'est con, hein, quand on reste le produit de son éducation. Bah, à la maison, on ne regardait pas la télévision en mangeant. Alors moi, j'attends, je me dépêchais de manger, je peux vous dire. Mais et j'ai gardé ce truc de l'éducation familiale. Ouais. Quand je mange, je ne regarde pas la télé.
Une émission culte pour vous ? Vous vous dites que vous êtes un enfant de la télé, c'est une émission qui pour vous...
Je ne sais pas si les gens se rappellent, ça commence à faire pas tout jeune. Il y avait une émission qui s'appelait Samedi est à vous. C'était Bernard Gollet.
Bernard Gollet qui vient de disparaître.
Je ne savais pas. Et alors ça j'adorais cette idée de les téléspectateurs appeler pour choisir le programme.
La une est à vous, et
on appelait, il y avait les séries, moi je priais pour que la série que je voulais mais bon c'est 12 ans, 13 ans, 14 ans quoi, peut-être un peu moins d'ailleurs.
Donc ça c'est les souvenirs.
C'est ça aussi la télé hein.
Et votre première télé, la première fois qu'on vous a vu à la télévision, qu'on a vu Stéphane Rothenberg.
C'est une bonne question. Ça devait être sur une chaîne qui n'existe plus. C'était sur une chaîne sportive, ça fait TV Sport, qui était l'ancêtre d'Eurosport, parce que je suis un ancien journaliste automobile, j'étais dans les stands des 24 heures du Mans.
Voilà. D'accord, donc là, on a aperçu avec votre micro.
Voilà, c'est comme avec le micro, et j'interviewais les pilotes, et je faisais les trucs, voilà.
Allez, on va passer au zapping de Gilles.
Je regardais, il est mort le 30 août de cette année, Bernard Gollet, et il y avait eu un petit hommage, voilà.
On passe au zapping de Gilles.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Alors voici le zapping du jour avec au sommaire hier sur LCI. Alors attention, Tonton Berkoff, André Berkoff, s'est énervé hier sur LCI.
Ça lui arrive ?
Ça lui arrive de temps en temps. Il a été touché
dans tous ses états.
Dans tous ses états par le suicide des agriculteurs. Ouais. Et puis donc il a remis les pendules à l'heure. Vous verrez à propos de l'argent qu'il doit être dépensé au bon endroit. Vous verrez également, vous entendrez également notre grand champion de tennis et chanteur Yannick Noah. Et vous allez voir, c'était dans C'est à vous hier, que son fils Joachim s'apprête lui aussi à pousser la chansonnette. Mais alors, old school. Hein. Vous connaissez, j'imagine, la publicité entêtante « Comme j'aime », qui saoule tout le monde avec son président Bernard Canetti. Et ben, vous allez découvrir Camille Canetti-Combal. Il en a fait un pastiche pour le lancement de Danse avec les stars et c'est très très drôle. Dans Quotidien sur TMC, le grand chef Mauro Colagreco, que vous aviez reçu dans Top Chef, Stéphane, a poussé un coup de gueule. On ne prend plus le temps des choses. Et pour commencer, c'était hier dans le Trésor de Jean-Pierre Pernaut avec ces jeunes agriculteurs de l'Île-Dieu qui font le buzz avec une chanson.
Les agriculteurs, dont la détresse, on le sait, est immense, un suicide tous les deux jours. Ces trois jeunes de l'Île-Dieu ont réalisé un clip qui buzz sur Internet. Regardez, avec eux, Manon Meunier et Nick Reisman.
On a tous dit c'est dégueulasse, qu'ils soient dans la merde comme ça. C'est un métier génial, c'est quand même pas normal.
Quand vous avez des milliers, des dizaines de milliers d'agriculteurs qui crèvent un suicide tous les deux jours parce que les prix leur sont imposés, parce qu'ils ont eu deux jours en 10 ans de vacances, parce qu'ils n'ont pas de troisième mois, ils ne sont pas comme nous, là, ici, les gens sur le plateau, des privilégiés, eux, ils crèvent. Et alors, eux, on n'a pas d'argent pour eux. Eux, on n'a pas d'argent pour les agriculteurs. En revanche, pour les 300 000, les 400 000 qui viennent, allons-y, les gars, allez, ouvrons, ouvrons la bourse.
Il veut relancer le slow. Parce que voilà, on a un truc en commun, c'est qu'on était plutôt des timides quand on était mômes. Et on n'a plus le slow. Quand je vois mon petit, il n'y a plus le slow, il n'y a plus le décisif où tu peux pécho, quoi. la petite chanson, ouais, là, ils sont là, à leur téléphone. Comment tu fais pour pécho, quoi? Et donc, ils voudraient faire un slow.
On a du mal à croire.
Et je trouve que c'est une très bonne idée.
Camille Canetti, je suis le fondateur de Danse avec les stars. Nous souhaitons que les gens qui vivent mal de ne pas savoir danser puissent maîtriser le passo doble. On est tellement sûr que ça va marcher pour vous qu'on est prêt à vous offrir la première émission le 21 septembre gratuitement.
Grâce à Danse avec les stars, j'ai perdu 18 kilos.
Testez Danse avec les stars une semaine, c'est gratuit.
Pour faire un bon produit, il faut du temps. Et dans cette société qu'on a construite aujourd'hui, tout va tellement vite qu'on a perdu la conscience. On veut une tomate en 3 jours, un poulet en 10 jours. Et c'est pas, malheureusement pas comme ça qu'on va bien manger.
Voilà, Mao qui sera dans Top Chef.
Il a été l'année dernière, on l'a invité, ouais. Je pense qu'on l'invitera encore cette année.
Qu'est-ce qui vous fait réagir dans ce que vous avez entendu?
Mon Camille Combal me fait toujours rigoler, ça c'est la bonne prise de guerre de TF1.
Vous feriez danser avec les stars?
Si je veux me couvrir de honte devant la France entière, non, jamais.
Vous étiez libre.
Oui, c'est ça, non, mais c'est vraiment pas une émission pour moi. Je suis sûr que je préfère encore faire Koh-Lanta, où je pense que je m'en sortirai un peu mieux, et encore. Que de faire danse. Je rigolerais bien, je pense. Mais Mauro, il parle d'or, il a raison, on peut pas.
On doit aller trop vite.
C'est vrai que si
on sait. Le slow, ça vous manque? Vous trouvez qu'on, comme dit Yannick Noah, on peut plus.
J'ignorais, n'étant pas un féru de boîte de nuit, j'ignorais que les slows avaient disparu. Donc j'ai appris une info aujourd'hui. Donc voilà, j'ai l'impression quand même qu'ils ont largement les moyens de trouver les solutions pour pécho, dit Yannick. Je pense que c'est quand même plus facile aujourd'hui que ça ne l'était jadis. Parce qu'effectivement, s'il n'y en avait pas les slows, c'était quand même plus difficile aujourd'hui.
C'était plus compliqué.
Effectivement, le numérique et l'électronique.
Il y a des applis.
J'ai l'impression que c'est quand même plus ça.
On ne vous est pas sur Tinder.
Et Jean-Pierre, Pernaud, donc, qui dit que le clip qui buzz, alors ça m'a fait sursauter. Oui. Mais effectivement, André Bercoff a raison de parler des agriculteurs. On voit le succès de L'amour est dans le pré qui donne un certain éclairage sur les agriculteurs, mais alors ce qui était assez, moi j'ai vu la séquence, ce qui était assez énorme, c'est la tête de Rokhaya Diallo face à lui, qui était complètement, ça valait son pesant. Mais en tout cas, André a eu raison de ce coup de gueule.
Et surtout que vous, en fait, avec Pékin Express, et c'est là où je voulais faire le lien, on voit des gens qui vivent avec pas grand chose. Quand on voit dans nos sociétés nos niveaux de vie et ce qu'on recherche, c'est ça la leçon de Pékin Express.
Ah, c'est sûr. Pékin Express, encore une fois, c'est un divertissement, je ne vais pas changer le programme. Mais c'est vrai qu'on découvre le quotidien des gens, on voit leur mode de vie, on rentre chez eux, un petit peu comme dans Recherche Appartement, on rentre chez eux, on voit effectivement comment ils vivent, la générosité qu'ils ont. Et effectivement, encore une fois, ce n'est pas pour minimiser les problèmes de notre quotidien en France, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que, même si la France est peut-être un pays moins riche qu'elle ne l'était proportionnellement à d'autres en 20 ou 30 ans, voilà, on est encore dans le top 20 ou le top 30, je pense maintenant, on était dans le top 10 quand j'étais jeune, le top 30 aujourd'hui, mais voilà, il y en a 200 de pays, et nous on voyage et on voit effectivement que c'est pas pareil ailleurs.
C'est pas facile, il y a Gilles qui nous dit bonjour tout le monde, je ne manque aucune émission de Pékin Express.
Merci, Gilles.
Même itinéraire bis, on apprend pas mal de choses sur les pays traversés. Alors il dit Hong et Mehdi, quel sacré client comme les frères belges. Question, où en est le tournage de l'émission Pékin Express avec les anciens qui a été arrêté pour des problèmes d'autorisation?
Oui, on va repartir, on va devoir même peut-être interrompre le tournage de Top Chef pour qu'on parte. Le réalisateur de Top Chef et le réalisateur de Pékin Express, c'est la même personne.
Et puis, l'animateur est le même.
Et l'animateur, c'est le même. Donc, je ne suis pas le seul à partir. Lui, on va devoir finir le programme. Voilà, ça fait partie. Alors, on a eu plein de choses entre les. Je préfère être.
Positif.
Et rentrer. Ouais. Bon, alors, c'est un peu piteux, on repart, on est 80. Mais bon, on a été assigné à résidence, on a été bloqué sous douane. Enfin, ils ont été plein de choses dans le passé, dans les précédentes éditions. Celle-là, ça va encore. J'aurais préféré tout faire. Bon, on va repartir. C'est pas très grave.
Donc là, c'est la finale, l'heure de la grande finale.
Absolument,
demain soir.
Grande finale cette édition.
C'est une des émissions qui phare pour M6. C'est une des émissions qui fonctionne bien. Il y a Top Chef, l'amour est dans le pré. Mais Pékin Express, c'est vraiment l'une des valeurs sûres d'M6.
Oui, en plus, c'est
une émission chère en plus.
Oui, on l'avait arrêtée de 3 ans. C'est une émission chère, compliquée, coûteuse. Bon, voilà. Mais c'est vrai que, et surtout, c'est un programme familial. Moi, ce qui est intéressant, c'est que je vois qu'on a. On a un nouveau public aussi. C'est-à-dire que les enfants regardent beaucoup ce programme. Ça, c'est très agréable parce que la télévision aujourd'hui, elle a du mal à avoir les enfants. Certains programmes, voilà, ils ont plein de possibilités. Ils ont leur tablette, ils ont leur téléphone, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants qui regardent Pékin, ça, c'est bien.
Ouais, c'est une émission familiale.
Oui, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Aujourd'hui, les chaînes se sont spécialisées. Vous faites des émissions pour les hommes, pour les femmes, etc. etc. Et c'est comme ça que ça marche souvent aujourd'hui en télévision. Vous choisissez un public. Et on n'est plus beaucoup. Je crois que TF1 et M6, pour le coup, on est les deux derniers, et France 2 à Fort Boyard, où on essaye, sur certains de nos programmes, à faire ultra large. C'est très, très dur. Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités. Et on y arrive, et c'est plutôt pas mal.
Moi, j'ai trouvé que cette année, c'était beaucoup plus ludique et moins aventurier que les autres années.
Ouais.
Et je pense que vous avez élargi les choses. C'est vrai que l'épreuve avec les vachettes, ça rappelait Interville, c'était assez drôle.
Oui.
Mais c'est vrai qu'il y a eu plus de choses ludiques que des choses. Il y a presque eu un seul trek.
Alors c'est vrai que c'est aussi la couleur du casting qui fait. Vous avez des gens plus ou moins compétiteurs, plus ou moins qui ont plus ou moins d'autodérision, etc. Cette année, on les a pris avec beaucoup d'autodérision, pas très sportifs. Donc c'est vrai que
ça donne une ambiance différente.
Voilà, on est très loin de Koh-Lanta pour ça. On nous compare souvent. Ouais. Alors Koh-Lanta, c'est vraiment
une performance physique et de survie. Là,
Pékin,
là,
c'est
plus
un
dans
sens du contact, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Et c'est vrai, Gilles a raison, mais c'est peut-être que l'année prochaine, on va au contraire faire plus physique. On veut un petit peu surprendre les candidats. Cela dit, si on leur dit que ça n'a pas été physique, je pense qu'ils vont pas être très contents.
Il y a combien de candidatures chaque année?
Ça dépend. On a battu un record l'année dernière, mais on n'est pas là pour battre des records. Ouais. C'est comme ça. C'est 40 000 personnes qui ont candidaté, ce qui est fou. Alors, les candidatures sont toujours ouvertes pour la saison de 2020. Donc, n'hésitez pas. Je sais qu'on est déjà
Valérie.
Un paquet. Voilà, Valérie, Gilles, un bon bidon.
Voilà, on va faire un bon bidon.
Voilà.
Jamais je pars avec lui.
Mais jamais. Mais c'est vrai. Voilà, il y a du monde, c'est incroyable. Ouais, les gens ont envie de découvrir cette manière un peu étonnante de voir le monde.
Ouais. Et vous participez, vous, au casting ou pas?
Alors non, parce que j'évite d'être juste parti. Si je me bats pour un binôme que je trouve bien en casting, donc je suis l'un des seuls dans la production à ne absolument pas être impliqué dans le casting pour éviter justement ça. Comme d'abord, il y a 100 000 euros à la clé, donc c'est pas rien. Comme je suis animateur mais directeur de course, voilà, j'arbitre pour éviter, je ne découvre le casting une fois qu'il était.
Alors, cette année où je vous ai vu manger, par exemple, alors c'était en Colombie, Valérie.
Oui,
vous avez mangé des fourmis géantes.
Je suis curieux. Les hormigas, culonas, je crois. Enfin, voilà. Ça se mange. Alors, on mange, on essaye. C'est des énormes fourmis, c'est grand comme, c'est grand comme un doigt. Et ça se grille, ça se mange. Pour le coup, je suis toujours curieux. Localement, je goûte les spécialités. Bon, en Amérique latine, il y a des choses intéressantes, pas tout, pas que.
Et vous avez testé le chocolat avec du fromage? C'est le grand truc des derniers épisodes.
Non, mais j'ai tout mangé, je crois. On n'aime pas tout, mais j'ai tout mangé. L'épreuve pour moi, c'est en Inde, pour être très honnête. Ouais. C'est là où moi, je ne suis pas en accord avec les cuisines locales. Parce que ce qu'on mange dans un restaurant indien en Europe, ce n'est pas du tout ce qu'on mange en Inde, vraiment.
C'est très adapté chez nous. Quelques mots sur Top Chef. Donc, Jean-François Piège quitte l'aventure.
Voilà, on va faire des choses avec lui, mais pas sur Top Chef. Paul Perret, donc, remplace Jean-François. Pas évident de remplacer Jean-François. Donc, on s'est dit, voilà. Donc là, on prend trois étoiles.
Il
a un nombre de restaurants record. On prend beaucoup plus de temps. Cette année, on commence le 30 septembre à tourner, on finit le 21 décembre. Donc c'est très, très long. C'est très difficile. Alors il y a des arrêts pour nos chefs, justement, parce que pour qu'ils puissent retourner dans leur restaurant. Mais voilà, Paul, c'est génial parce qu'il a été invité l'année dernière. C'est 3 étoiles. À Shanghai, c'est l'un des restaurants cultes.
Ouais.
C'est un un chef très singulier, qui a un univers très particulier. Les candidats étaient comme des fous, on l'a vu vraiment, parce que c'est important que les chefs soient ultra crédibles pour les candidats et leur passe leur savoir. Donc il faut forcément du haut niveau, parce que déjà nos candidats sont bons. Alors il faut. Voilà. Paul Perret, ça va. Je pense que même Jean-François, c'était. Être remplacé par Paul Perret, ça le fait. Voilà.
Tout va bien.
Il est content.
Et puis on va retrouver Michel Sarran, Hélène Darroze, et
Philippe Etchebest.
L'autre.
Voilà. Oui, ça fait quatre couleurs différentes de chef, exactement comme on avait avant. Des exigences très différentes. Philippe Etchebest, voilà, c'est la technique, c'est la rigueur, etc. Et Hélène, elle est plus maternelle. Elle a différentes choses.
Et c'est facile de se renouveler après.
Parce que c'est 40 épreuves à éliminer chaque année. 10 saisons, ça fait 400 épreuves. On a des classiques qu'on garde, heureusement pour les équipes de créatifs, comme ça, ils n'ont pas tout à créer. Donc, on garde les grands classiques et on garde 15 épreuves, on en crée 25 à peu près par saison. Donc non, c'est jamais facile. Nos chefs invités nous aident. Ouais. Donc voilà, les chefs, j'allais dire en résidence, nous aident aussi. Non, c'est pas facile, mais il y a plein de choses super là. J'ai hâte que ça commence.
Et l'émission que vous aimeriez animer? L'émission de vos rêves.
Je suis servi pour l'instant. Oui, franchement, ça va. J'ai commencé Flashman à la radio et j'aimerais bien un jour. Je peux pas là avec mes émissions. Oui, je pars
non,
partout.
C'est pas possible.
Mais la radio un jour, oui, parce que moi j'aime bien. Je vous vois travailler. Je sais que c'est un contact très particulier avec les auditeurs. Très spécifique par rapport à la télé, ça me ferait bien plaisir. Bon. Je ne peux pas en ce moment.
Non, en ce moment, c'est pas possible.
Il y a une radio dans Pékin Express. Bien
rempli. Donc un Pékin itinéraire, la finale de Pékin Express demain sur M6 à 21h05.
Et puis
on voit déjà.
Allez les filles,
vous avez un pronostic, non, vous pouvez
Non, je ne peux rien dire. Je suis d'une neutralité suisse.
Bien sûr. Bon, vous avez des chouchous quand même. Non.
Je ne dis pas.
Vous ne le dites pas. Merci Stéphane Rothenberg d'être passé par Sud Radio ce matin. On se retrouve dans un instant pour parler de nos portables. Vous savez qui nous espionnent, nos portables?
J'ai une nouvelle application maintenant pour les messages. Je suis parano comme tout le monde. J'ai entendu, je ne sais plus qui, Edward Snowden dire qu'il fallait être sur Signal plutôt que WhatsApp.
Ouais, absolument.
Donc je fais ça. Voilà. C'est Edward Snowden.
Est-ce que vous avez des choses à cacher?
Non, mais j'aime pas l'idée que toutes mes données soient prises. Il n'y a aucune raison.
Bon, on va en parler. Restez avec nous sur Sud Radio 0826-300-300. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité à partir de 11h, on viendra sur les déclarations d'Emmanuel Macron à propos de l'immigration. On en a un petit peu parlé hier, mais on va en reparler aujourd'hui à propos de l'aide médicale pour les étrangers que le gouvernement souhaite réformer. On parlera également du prix de l'essence, 0826-300-300. Nos portables... nous espionnent-ils? Servent-ils à espionner notre vie privée? Pour en parler, Jacques Hainaut, journaliste spécialiste de l'usage des écrans. Bonjour, vous avez publié Silicon Valley, Predator Valley, comment Apple, Facebook, Google et les autres s'emparent de nos données. C'est paru aux éditions Télémac. Et Gilbert Kallenborn, vous êtes journaliste à 01.net. Vous êtes spécialiste en cybersécurité. On a eu envie de traiter ce sujet puisqu'il y a eu une série d'articles à la rrentrée qui nous ont appris, qui nous ont appris que... Apple avait espionné un certain nombre d'utilisateurs de ses téléphones. Apple s'est même excusé, j'ai vu ça, d'avoir fait ça. Donc, est-ce que je vous pose la question clairement, est-ce que nos téléphones nous espionnent?
Alors, ça dépend de qui on
parle. Gilbert Kallenborn.
Kallenborn,
pardon.
Zeronet.com.
Oui, oui.
Et alors, ça dépend de qui on parle, en fait, qui espionne qui. Il y a beaucoup d'espionnage.
Mais nous, on va parler des particuliers, de mon portable qui est posé sur la table.
Alors, qu'est-ce que vous par espionner? Parce qu'effectivement... Vous avez plusieurs possibilités. Alors, on peut parler de plusieurs choses. Vous avez d'abord le fait que vous activez parfois votre assistant vocal, comme Siri, sur votre iPhone, Google, etc., sur votre Samsung. Donc, est-ce qu'il vous espionne? Oui et non.
Ils sont toujours en train. Oui ou c'est non.
C'est oui et non. C'est pas. On peut parfois. Il y a des choses qui sont pas si simples que ça. On peut pas trancher comme ça, vous savez. Il faut parfois faire un peu la part des choses. Oui et non, parce que votre téléphone vous écoute tout le temps, parce qu'il doit, par exemple, sur votre smartphone, attendre que vous disiez Siri, etc. Après, il envoie, une fois que vous l'avez activé, vous avez activé votre assistant vocal comme Siri, il va envoyer des serveurs d'Apple, puisqu'on là on parle des iPhones, lorsqu'on parle de Siri, il va envoyer sur les serveurs d'Apple ce que vous lui dites. Par exemple, Siri, quel temps il va faire demain, etc. Donc ça, il va l'envoyer, il est obligé de l'envoyer au serveur d'Apple. C'est anonymisé, c'est-à-dire qu'il y a un identifiant qui est adonné à cette conversation, un identifiant qui est randomisé, c'est-à-dire qu'il est fait au hasard. Donc normalement, on ne peut pas savoir que c'est vous qui... c'est pas marqué, c'est Jacques Hénault qui a dit à son smartphone à Siri.
Officiellement.
Voilà. Attendez. Qu'est-ce que vous en savez, vous, de l'autre côté?
Je sais, mais officiellement.
On peut douter.
On peut toujours douter, mais bon, on peut aussi faire
confiance. Apple le dit que c'est la vérité, on est d'accord.
Mais c'est pas parce qu'ils le disent que c'est faux.
Ouais. Mais ils avaient nos trajets, par exemple.
Il faut faire confiance. Ils ont toujours les trajets. Il n'y a pas que ça, les trajets, c'est...
Mais voilà, ils savent...
Bah, vous voyez, quand vous faites Waze, que je reprends ma voiture, ils me mettent domicile. Bah non, je ne veux pas rentrer chez moi, pourquoi ils me proposent ça?
Ils vous disent, voilà, ça peut être... Google vous dit, est-ce que vous êtes garé, ou est-ce que vous avez garé votre voiture dernièrement? Vous êtes garé près de là. Oui. Donc pour finir, laissez-moi finir jusqu'au bout. Donc là, vous avez une conversation avec Siri. Donc quel temps il va faire, etc. Siri vous donne la réponse après avoir consulté les ordinateurs d'Apple. Et cette conversation est enregistrée. Elle est enregistrée. Et elle était enregistrée jusqu'à il y a quelque temps pour que plus tard ça puisse être éventuellement écouté par des gens d'Apple ou des sous-traitants pour pouvoir améliorer la conversation. Et donc là, il y a eu effectivement, on s'est rendu compte de ça. Donc Apple a dit qu'ils avaient arrêté. Donc ils vont revoir ce qu'ils vont faire avec ça. Donc en tout cas, au niveau d'Apple, si je ne me trompe pas, pour l'instant, ces conversations ne sont plus écoutées par des humains. Ce n'est plus possible.
Ouais.
Ils vont ça va être à nouveau peut-être le cas dans quelques temps. Mais ils ont arrêté cette procédure d'amélioration. Ils conservaient les conversations pendant des mois et des mois. Donc ça, c'est la première possibilité. C'est lorsque vous activez votre assistant vocal et vous lui demandez quelque chose. Autre possibilité, sur votre smartphone, vous mettez plein d'applications. Alors, je ne sais plus quel est le chiffre exact, mais c'est plusieurs. En moyenne, nous avons tous sur notre smartphone plusieurs dizaines d'applications. Ces applications, elles peuvent collecter énormément d'informations sur vous. Mais ce n'est pas le smartphone en lui-même qui va collecter, c'est les applications.
C'est les applications.
Et donc, c'est vous qui êtes. Je ne suis pas là pour dédouaner, faire confiance plus particulièrement à Apple ou à Google, peu importe. Mais c'est vous qui installez les applications et c'est vous qui êtes responsable de ce que vous donnez comme autorisation à ces applications pour collecter comme information. Ils peuvent accéder à quel est le type de smartphone que vous utilisez, quel système d'exploitation vous utilisez, quelle version du système d'exploitation vous utilisez. Le système d'exploitation, c'est le logiciel qui régit et qui contrôle tout votre smartphone. Ils peuvent accéder à votre identifiant, à votre identifiant. Ils peuvent accéder à votre géolocalisation. Ils peuvent éventuellement accéder à vos contacts. Voilà. Et puis même, il y a des applications qui vivent de la publicité.
Oui.
Et pour qu'elles puissent, ces publicités soient personnalisées, ces applications vont vendre votre géolocalisation à la régie publicitaire qui s'occupe de ces publicités.
Qui va vous envoyer des publicités.
Voilà, qui sont censées être personnalisées. Alors, c'est pas toujours personnalisé, etc. Dans la réalité, c'est un peu très approximatif. Ouais. Voilà, à ma connaissance, les différents types d'espionnage, entre guillemets. Voilà. Et après, si vous êtes complètement parano, on peut être aussi, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir quelqu'un qui a installé sur votre smartphone une application destinée à vous espionner. Ça peut être de la part d'un gouvernement, ça peut être de la part de votre conjoint qui a quelques soupçons sur votre comportement, ou ça peut être de la part de, je ne sais pas, de votre belle-mère qui, je ne sais pas pourquoi, voudrait vous espionner.
Alors Gilbert Callenborn, vous êtes donc journaliste à 0.net, spécialiste en cybersécurité. Pour vous, le principal danger, c'est lequel pour le... On a entendu tout exposer, mais pour l'usager moyen.
Pour l'usager moyen, c'est effectivement c'est le ciblage publicitaire. Ouais. Donc si on a envie de protéger ses données personnelles, il faut faire très attention aux applications qu'on installe et de ne pas aller sur tous les sites, sur n'importe quel site. D'utiliser par exemple aussi des bloqueurs de pub, des bloqueurs
De refuser la géolocalisation, par exemple, des choses comme ça.
Oui, voilà, c'est de verrouiller au maximum les données qu'on peut donner avec son smartphone.
Qu'est-ce qui s'était passé avec Apple et Siri, justement? C'est-à-dire, Apple s'est excusé, a reconnu avoir conservé des enregistrements vocaux.
Apple n'est pas le seul à faire ça. Amazon le fait aussi avec... avec Alexa. Donc, ils enregistrent des conversations et ils les utilisent après de manière ponctuelle pour améliorer leurs algorithmes d'intelligence artificielle. Mm-hmm. Après, le problème, c'est que l'utilisateur n'a pas été averti de ça de manière correcte. Mm-hmm. C'est surtout ça le problème.
Ouais.
Et le ciblage publicitaire, c'est pareil. C'est finalement, si on est averti, voilà, au moins, on le sait.
Ouais.
Le problème, c'est le ciblage publicitaire qui est fait en douce. On ne sait pas vraiment qui nous regarde aller à telle boutique, aller sur tel site, etc.
Alors, je vous ai posé la question en antenne, mais je vous la repose parce qu'on a eu la discussion avec des amis pendant l'été. On a le sentiment qu'on a eu des conversations parlant, je ne sais pas, d'une marque ou de je dis n'importe quoi, Nespresso, et que d'un seul coup, on a des publicités qu'on n'avait pas auparavant qui apparaissent sur Instagram ou sur des... Est-ce que c'est possible ou pas ? C'est-à-dire que mon portable, est-ce qu'il peut m'écouter au moment où je parle, même si je n'ai pas activé Siri ou...
Techniquement, tout est possible. Ouais. Techniquement, c'est parfaitement possible qu'un logiciel enregistre votre conversation, l'analyse quelque part dans le cloud, en fasse une transcription, et puis après, en retour, vous balancez une pub. Mais personnellement, j'y crois pas, parce que si vraiment ce type d'espionnage serait dévoilé, ce serait vraiment très très mauvais pour l'image de la société.
Mais c'est possible, mon téléphone peut m'enregistrer.
Techniquement,
en ce
oui, c'est possible.
On peut même déclencher la caméra et le micro à distance pour écouter ce que vous faites ou vous voir ce que vous faites.
Alors, techniquement, c'est possible, mais encore une fois, quel est l'intérêt de le faire pour, comme ça au hasard
non, oui, bien sûr, mais il y a
un ciblage publicitaire.
Non, et puis publicitaire pour déclencher la vidéo,
ce serait un peu violent.
Non, pas la vidéo, je parle du son.
Oui, non, mais ils ont pas. Il faut aussi se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils en savent suffisamment à travers tout ce que vous faites comme recherche. Il se peut très bien que si vous ayez parlé de cette marque de capsule de café, vous aviez pensé quelque temps auparavant, et à ce moment-là, vous avez fait une recherche. Pas forcément une recherche. Vous avez peut-être fait quelque chose, une recherche sur un terme un peu similaire. Vous avez peut-être fait une recherche sur une nouvelle cafetière. Voilà, et donc, si vous voulez acheter une cafetière, c'est que vous allez devoir peut-être acheter des capsules. Donc, on suppose. On ne sait pas exactement comment les algorithmes. On sait qu'est-ce qu'ils collectent comme information. Après, on ne sait pas comment tout est analysé, à partir de quoi ils vont vous dire Tartampion, il s'intéresse aux capsules.
Mais ce que je remarque, c'est que vous dites on ne sait pas, oui et non. Il y a quand même pas mal de flou.
On ne peut pas savoir. C'est
inquiétant, non ?
C'est des systèmes très complexes, donc forcément, on est obligé de faire confiance.
On est là face à des boîtes noires. C'est-à-dire qu'au niveau des algorithmes, on ne sait pas exactement on sait quelles informations. Ce que je veux dire, lorsqu'on ne sait pas, c'est que on sait a priori quelles informations ils collectent. Ce sont d'abord sur les réseaux sociaux avec qui sont vos amis. Donc, ils regardent ce que font vos amis. Si vos amis s'intéressent à quelque chose, il y a de fortes chances que vous aussi vous intéressez à quelque chose. C'est la théorie de la proximité. Voilà, lorsqu'on habite, c'est la même chose. Lorsqu'on habite dans un immeuble, en général, on a à peu près le même niveau de vie que les voisins. Et donc, on peut classer les gens. Donc, vos amis vous donnent des informations sur vous. Qu'est-ce que vous faites comme recherche? Où est-ce que vous avez été? Donc, la géolocalisation, c'est très important. Après, donc, on a toutes ces informations. Ils ont toutes ces informations. On ne sait pas exactement comment l'algorithme va pondérer toutes ces informations. Qu'est-ce qui va être le plus important? Est-ce que c'est vos recherches sur Internet? Est-ce que c'est plutôt ce que font vos amis? Est-ce que c'est plutôt qu'est-ce que vous avez visité? Quels ont été vos trajets?
Moi, j'ai l'impression qu'avant les technologies et les portables, la vie privée était un sanctuaire. C'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qu'on faisait, ce qu'on était. On avait une vraie liberté. Je trouve que Apple et Huawei et autres ne nous garantissent pas notre sanctuaire de vie privée. Et ça serait à eux de faire en sorte que...
La vie privée, je pense que les individus sont largement responsables quand on regarde Instagram.
C'est quoi la vie privée?
C'est quoi,
la vie privée, la définition de la vie privée, c'est de pouvoir cacher quelque chose à quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai le droit de cacher quelque chose à ma belle-mère. Pour prendre l'exemple de la belle-mère. Voilà, c'est ce qu'on appelle la vie privée. Alors ça, effectivement, aujourd'hui, d'abord, au niveau des jeunes, ils ne savent plus ce que c'est. Ils sont sur les réseaux sociaux avec 800... amis sur Instagram, enfin amis, 800 followers sur Instagram, et ils savent plus ce que c'est, donc il faut leur réapprendre. Est-ce que Facebook, Apple, Google en savent plus que ma belle-mère sur moi? Très certainement, bien sûr, mais ça, normalement, on est un petit peu conscient maintenant. Il y a quand même des efforts, en particulier de ce côté-ci de l'Atlantique, pour essayer de nous faire comprendre, en particulier à travers le RGPD, le règlement sur la protection des données, qui a été introduit au niveau européen il y a quelques temps, tout ce que l'on pouvait transmettre comme information. On sait quand même qu'aujourd'hui, lorsque vous achetez une application, la téléchargez et qu'elle est gratuite, c'est que quelque part, c'est vous le produit. Lorsque vous utilisez un réseau social, c'est vous le produit. Vous donnez vos données, etc. Ouais. Vous donnez vos informations personnelles. Donc effectivement, la vie privée vis-à-vis de ces nouvelles technologies, elle n'existe plus. Est normalement un peu conscient.
Gilbert Kallenborn, est-ce qu'il y a des choses plus sûres que d'autres? Est-ce que Apple est plus sûr que... Est-ce que le système d'exploitation...
Si on compare entre Android et Apple,
système d'exploitation. Voilà.
Alors Apple avec son iPhone est parti avec beaucoup d'avance en termes de sécurité. Ils ont choisi en fait un écosystème assez fermé, des dispositifs assez verrouillés. Mais avec le temps, maintenant Google avec son système Android commence à rattraper un petit peu le temps. Et donc maintenant, aujourd'hui, Android et iOS, ce sont des systèmes qui ont un niveau de sécurité assez équivalent. Après, il faut quand même savoir que sur Android, vous pouvez toujours installer n'importe quelle application, alors que ce n'est pas possible, par exemple, sur un iPhone. Et ça, c'est quand même... Alors, bon, d'un côté, c'est très contraignant. D'un autre côté, c'est très sécurisant.
Mmh. Est-ce qu'il y a beaucoup...
Est-ce qu'on ne confond pas deux choses? Il y a d'un côté la cybersécurité, c'est-à-dire la protection contre les virus, et puis la protection de la vie privée.
Oui, alors, là, il y a deux choses.
La protection de la vie privée, après, ça va plus passer par les applications, en fait. Oui. Après, vous avez aussi des stratégies différentes entre Apple et Google. Google fait de l'argent avec le ciblage publicitaire, Apple non. Donc, Apple n'est pas intéressé, en fait, par collecter des données personnelles. Apple est surtout intéressé à vendre ses iPhones à plus de 1000 euros. Oui. Et à vendre des abonnements à ces services.
D'accord, mais il y a quand même, quand ils ont reconnu avoir écouté des conversations, il y avait bien un but, non, dans ce qu'ils ont fait.
Oui, bah après, le but qui a été indiqué, c'était l'amélioration du produit. Je pense que là, dans ce cas-là, on peut leur faire confiance.
Ouais.
Après, si c'était Google ou Amazon, bon, on aurait peut-être pu...
Avoir plus de doutes. Comment on se protège? Alors, il y a les hackers aussi, il y a la question des hackers, de ceux qui peuvent... pirater nos données.
Oui, alors, bon, ça, il faut se rappeler, en 2013, dans les documents publiés par Edward Snowden, la NSA avait dit dans un des documents, voilà, c'est l'âge d'or de la surveillance. Mmh. Et notamment grâce au smartphone, parce que le smartphone concentre énormément de données dans un seul appareil. Donc, forcément, les hackers d'État, par exemple, vont cibler ce type d'appareil. Donc, on l'a vu récemment dans en Chine, en fait... probablement des organisations gouvernementales ont ciblé la population ouïghour.
Ouais, c'est ça. Donc c'est
très intéressant de hacker un téléphone.
Ouais.
Et vous l'avez tout le temps avec vous.
En plus,
c'est
le mouchard parfait.
C'est le mouchard parfait.
Et il y avait eu un sujet dans Tout compte fait sur France 2 sur les hackers qui avaient en fait dans la rédaction de France 2 ils avaient une boîte vocale d'Alexia. Et en fait, comme c'est sur le Wi-Fi, il suffit d'entrer dans le Wi-Fi sur lequel il est connecté, ce qu'a fait un hacker, et en 10 minutes, il entendait tout ce que disait la rédaction, car il arrivait à déclencher l'ouverture du micro à distance. C'est juste effrayant.
Allez, on se retrouve dans un instant. On parle de nos portables, de l'espionnage, de toutes les formes de piratage. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio, nos portables nous espionnent-ils? On en parle avec Jacques Henault, journaliste spécialiste de l'usage des écrans. Vous avez publié Silicon Valley, Predator Valley, comment Apple, Facebook, Google et les autres s'emparent de nos données. Et Gilbert Kallenborn, vous êtes journaliste à 01.net, spécialiste en cybersécurité. Gilles, vous lui posiez une question sur...
Le fait que beaucoup de sites nous demandent de laisser nos cartes bleues. En gros, ça ira plus vite pour commander un billet d'avion sur Air France ou autre. Est-ce que cette donnée-là qui fait partie de notre quotidien, on doit la laisser ou pas? Est-ce qu'il y a un vrai risque où les sites sécurisent quand même votre numéro de carte bleue?
Alors, si on enregistré ou non, finalement, il y a toujours un risque dans un cas ou dans l'autre. Si je l'enregistre, donc ça veut dire que je fais confiance en fait au prestataire, au vendeur. Et donc, si lui se fait pirater... Si les serveurs sont piratés, à ce moment-là, il y a le risque que les données disparaissent. Il y a eu beaucoup de fuites en fait, de données personnelles avec des numéros de carte bancaire ces dernières années.
Et où ils récupéraient tous les fichiers.
Voilà, où ils ont récupéré les fichiers. Après, si maintenant vous mettez votre numéro de carte à chaque fois, il y a le risque de se faire pirater au moment où vous mettez votre numéro de carte. Il y a des groupes de hackers actuellement qui sont spécialisés dans ce type de piratage. C'est au moment où vous mettez le numéro, vous appuyez sur Enter et hop, vous avez votre numéro de carte qui part dans la nature.
Un bon moyen, c'est
d'utiliser une carte avec un numéro qui change.
Je ne savais pas que ça existait, une carte avec un code qui change.
Le code de derrière change toutes les demi-heures.
Votre livre, vous avez eu des pressions ou pas quand vous l'avez fait, Silicon Valley? Donc vous parlez de prédateurs, Apple, Facebook, vous avez pu enquêter
Oui, il n'y a pas eu de pression au niveau de l'enquête. Il y a plutôt des mesures de rétorsion après. Toujours le bienvenu maintenant.
Dans les conférences de presse.
C'était à prévoir. Si
mais ce que vous racontez dans le livre, je ne l'ai pas lu, c'est comment ils s'emparent de nos données. Ils s'emparent de nos données principalement à des fins publicitaires, c'est ça?
Oui, tout à fait. Oui. Donc voilà. Pour revenir au smartphone et au sujet d'aujourd'hui, donc quand même, je pense que le plus gros risque au niveau des données, c'est quand même les réseaux sociaux. Ouais. On s'est aperçu quand même récemment que les principaux réseaux sociaux, Facebook, qui contrôle non seulement Facebook, mais aussi Instagram, WhatsApp, Messenger, ce sont des apprentis sorciers avec tout ce qui est respect de la vie privée. Donc, on a vu qu'il y a eu quand même pas mal de scandales. Cambridge Analytica, où quelqu'un avait pu réaliser un jeu qui a permis de collecter des données sur des dizaines de millions d'utilisateurs, données qui ensuite ont été moulinées pour voir quels étaient les centres d'intérêt des gens. Et ça a permis, paraît-il, entre autres, à Donald Trump de faciliter son élection. Hein. Bon, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. On n'est pas au bout de l'enquête. Et donc, on est quand même, se rend compte qu'il y a énormément de brèches de sécurité, de non-respect des engagements sur le respect de la vie privée de la part de ces réseaux sociaux.
Ouais.
Donc, quand vous voyez qu'une Facebook veut lancer une monnaie, une crypto-monnaie, et donc, ça paraît quelque part notre portefeuille, voilà, je pense que le risque est plutôt là. Donc, j'utilise les réseaux sociaux pour parler de mon travail, jamais pour parler de ma vie privée, pas mettre de photos de mes enfants ou des choses comme ça. Ou
alors il y a eu toute cette polémique, alors c'est vrai qu'on sort un petit peu des smartphones, mais bien que ce soit souvent par les smartphones qu'on envoie des photos et des choses comme ça, il y a eu toute cette polémique de la propriété. On a vu fleurir ça sur les réseaux cet été avec « je refuse que Instagram utilise mes photos », ce qui était assez grotesque, parce que vous avez signé un contrat qui, en gros, vous fait d'Instagram ou de Facebook propriétaire de vos données.
Non. Le propriétaire, c'est bien vous, mais vous leur accordez
un droit d'exploitation.
Une licence universelle sans limite, alors ce qui, devant les tribunaux français, ne tiendrait pas, parce qu'il faut qu'une licence soit limitée dans le temps et du point de vue géographique. Mais on a vu, moi je pense qu'il y a beaucoup plus grave, c'est le fait que vous avez des ministres ou des chefs de gouvernement qui utilisent des messageries
non sécurisées.
Grand public, alors non sécurisé officiellement, elles sont sécurisées.
Ça existe ou pas les messageries sécurisées ?
Oui, ça existe. Oui, alors par exemple, en France, vous avez plusieurs niveaux en fait de sécurité. Donc, si vous êtes au plus haut niveau, le très secret défense, forcément, vous allez utiliser des outils de communication ultra sécurisés. Vous n'allez pas utiliser WhatsApp ni Telegram. Donc après, tout dépend de qu'est-ce que vous voulez communiquer à qui. Alors, si maintenant le président de la République utilise Telegram pour communiquer salut, ça va, bon, ça va.
C'est pas quand il n'y a pas de secret. Mais en fait, on est les premiers responsables, c'est un petit peu ce que vous dites, de notre comportement. Et c'est là-dessus qu'on doit peut-être s'interroger avant de se dire on m'espionne, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je fais avec mon téléphone.
La sécurité et la protection des données personnelles, c'est pas un outil qui va vous donner en fait la solution. C'est avant tout vous,
votre comportement,
comprendre ce que vous faites. À qui vous vous adressez, qu'est-ce que vous utilisez.
Mais l'inquiétude, elle venait quand même du fait d'avoir son portable. La question ce matin, c'était d'avoir son portable, son smartphone sur la table et de se dire qu'on entend nos conversations et qu'elles peuvent être utilisées à des fins. Donc ça, vous dites que c'est quand même assez limité comme risque.
Techniquement, encore une fois, c'est possible. Hein. Ouais. Techniquement, on peut faire énormément de choses. Activer à distance la webcam qui est sur votre smartphone. Techniquement, tout est possible. Après, comme vous dites, les responsables des données de notre vie privée, c'est nous, mais c'est aussi les entreprises qui sont en face.
Ouais.
Les responsables sont aussi les entreprises à qui nous confions nos données. Nous sommes responsables des données que nous leur confions.
Mais eux
ils sont quand même responsables de l'usage et de la sécurité, de l'utilisation. Ouais. Donc, a priori, il y a quand même un contrat de confiance quelque part. Effectivement, de temps en temps, on s'aperçoit...
Est-ce qu'on peut faire confiance à ces, je vais mettre des guillemets, à ces monstres, à ces
protéiformes ça va devenir un enjeu. Ouais.
Est-ce que vous faites confiance à votre conjoint, par exemple? Parce que votre conjoint peut très bien utiliser un logiciel espion qu'on peut acheter en ligne et l'installer pendant un moment d'inattention sur votre téléphone.
Moi, j'ai une appli qui s'appelle TapCall. Et TapCall, je peux enregistrer n'importe quelle personne que j'appelle ou qui m'appelle. Et donc la personne, je l'ai jamais fait, Valérie.
On en a connu d'autres qui avaient un enregistreur dans la poche.
Ouais, mais maintenant,
les applications d'enregistrement, certains envoient en fait l'enregistrement dans le cloud.
Il a enregistré quelqu'un sans son consentement, c'est illégal en France.
Ouais. Alors pourquoi l'application est accessible par iPhone et Apple
Elle vient d'où
sur les téléphones, il y a des possibilités.
Mais vous êtes averti que l'application envoie l'enregistrement.
Normalement, il y a
sûrement marqué quelque part dans un
téléphone. Vous avez accepté des conditions d'utilisation. Ces conditions d'utilisation, il doit être précisé qu'en France, on ne peut pas enregistrer.
Oui, mais
éteindre son portable, ça sert à quelque chose ou pas? retirer la batterie comme.
Alors sur un iPhone, ça va être compliqué de retirer la batterie.
Oui, c'est compliqué, on ne peut plus retirer la batterie. Mais l'éteindre, oui, ça bah, le rend inoffensif
il,
ou
oui,
pas
oui, il ne fonctionne plus, donc il n'y a, plus d'enregistrement. Bon, en, théorie, ouais, en théorie. Parce
mais c'est ça qui m'a dit, a priori,
les de
en
vos
théorie.
Oui, il est aussi impossible d'imaginer une application qui va réveiller votre smartphone, même s'il est éteint, et vous écouter. C'est possible, techniquement.
Parce que ça arrive de temps en temps que s'il se déclenche.
Il ne faut pas être complètement parano. L'individu lambda, il ne va pas être espionné. Par contre, si effectivement vous êtes président de la République et vous avez dit à tout le monde que vous utilisez Telegram, peut-être que quelqu'un va peut-être essayer d'imaginer une application qui va s'installer via Telegram. Je ne sais pas si c'est possible techniquement, mais peut-être, hein, a priori, et qui va se réveiller la nuit pour espionner le président. Ouais. Moi, je ne dirais pas...
Tout dépend qui vous êtes. Si vous êtes Edward Snowden, coursé par la NSA, vous n'allez peut-être pas utiliser de smartphone du tout.
Il y a Marilyn qui nous dit bientôt la 5G et tous ses effets secondaires. Ça va changer quelque chose, la 5G? Il y a des conséquences sur la sécurité?
Sur la sécurité...
Gilbert Kallenborn.
Oui, alors il y a des conséquences, on en parle beaucoup, en fait, et notamment avec Huawei, parce qu'avec la 5G... c'est l'architecture en fait des réseaux télécoms qui change et donc par exemple des communications qui ne vont plus passer par forcément le cœur de réseau mais qui vont rester de manière locale et donc comme Huawei est un fournisseur de d'antennes relais, on imagine que Huawei va pouvoir peut-être éventuellement espionner davantage pour le
d'où la réaction des États-Unis de refuser de Google dit, mais... de refuser de donner
ça, derrière il y a aussi quand même des enjeux économiques
absolument
Huawei pour l'instant est le plus en avance pour vendre
c'est un écran de fumée pour vendre plus d'équipements
Voilà. Bah, merci à tous les deux. Jacques Henault, je rappelle votre livre Silicon Valley, Prédateur Valley, comment Apple, Facebook, Google et les autres s'emparent de nos données. Et puis 01.net.com, avec d'excellents tests à chaque fois. Et puis des papiers très complets sur tout ce qui est nouvelles technologies. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité sur Sud Radio. À tout de suite.